Deutsche Welle. Droits et libertés.
Deux thèmes cette semaine. D'abord, les conditions de détention difficiles dans les prisons africaines. On va aller faire la connaissance de Prisonniers sans frontières. C'est un réseau qui milite depuis près de 20 ans maintenant pour améliorer le quotidien des détenus en Afrique. Et ensuite, on reviendra sur le ras-le-bol d'une partie de la population tchadienne qui réclame davantage d'équité et de liberté. Au micro, c'est Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. PRSF, c'est l'abréviation de Prisonniers sans frontières, une ONG qui va célébrer son 20e anniversaire en 2015. Elle a été créée et toujours animée et coordonnée d'ailleurs en France, mais elle travaille désormais avec 400 bénévoles africains dans 7 pays ouest-africains francophones. Ces bénévoles visitent régulièrement 85 prisons de la sous-région, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Niger, en Guinée, au Mali, au Togo et au Burkina Faso. En tout, ce sont ainsi 27 000 détenus environ qui profitent de l'œil vigilant et du soutien des bénévoles de cette ONG. J'ai pu m'entretenir avec Michel Benoît, c'est le président de PRSF, et je lui ai demandé pourquoi s'intéresser au sort des détenus en Afrique, alors même que le reste de la population, les citoyens ordinaires qui, eux, n'ont pas été emprisonnés, auraient bien aussi besoin qu'on défende leurs droits à eux. Voici la réponse de Michel Benoît.
Bien, on ne va pas faire le concours, si vous voulez, des populations les plus malheureuses, mais c'est certain qu'être détenu dans un pays qui a des soucis économiques, sociaux, etc., c'est vraiment une situation extrêmement difficile, donc on peut quand même s'en préoccuper. Et puis l'autre manière d'aborder la chose, c'est de dire, mais comment se fait-il que vous vouliez donner à des détenus un niveau de confort, entre guillemets, qui serait supérieur à ce que le plus pauvre des citoyens en liberté n'obtient même pas. Derrière ça, il faut pondérer quand même un peu la chose, par un phénomène qui est présent dans beaucoup, beaucoup de prisons en Afrique, c'est qu'il y a une forte proportion, parfois jusqu'à 50% des détenus, qui sont des gens en attente de jugement. Et avec un excès bien regrettable, c'est que parfois, si enfin ils passent en jugement et s'ils sont reconnus coupables, ils ont parfois fait en prison préventive plus de temps que la peine réelle donnée.
La semaine dernière, Amnesty International appelait les autorités mauritaniennes à cesser de harceler, menacer et sanctionner les militants anti-esclavagistes dont plusieurs ont été arrêtés et incarcérés. Parmi eux, Biram Ould Daoult Abeid, qui était arrivé d'ailleurs deuxième à l'élection présidentielle de juin 2014 et qui préside l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Détenus dans une prison du sud du pays, ils auraient subi des mauvais traitements. L'IRA Mauritanie parle d'empêchement de sommeil, de privation de médicaments pour les malades, etc. Alors, PRSF n'intervient pas ou pas encore en Mauritanie, mais son président Michel Benoît estime que si ce genre de sévices-là sont vraiment extrêmes, il est quand même courant que les détenus soient victimes de violences.
Ce qu'on observe, c'est d'abord ce problème de surpopulation qui entraîne des problèmes de nourriture insuffisante, qui entraîne des problèmes de santé, d'hygiène, avec toutes les maladies qui se communiquent quand il y a entassement de personnes dans des locaux mal aérés, qui entraîne aussi des problèmes de traitement des eaux usées, d'installations sanitaires totalement insuffisantes. C'est déjà pas mal contre le droit du détenu de base, si on peut dire, qui est d'être incarcéré dans des conditions raisonnables de nourriture, de soins et d'avoir accès à un procès équitable dans un délai raisonnable.
Pour pouvoir entrer dans les prisons qui, par définition, sont plutôt un milieu fermé, Prisonniers sans frontières s'engage à ne pas dénoncer à l'extérieur et en détail les violations des droits de l'homme que ces bénévoles pourraient constater sur place. En revanche, l'ONG s'attache à faire remonter en haut lieu les manquements inacceptables du système carcéral et pénitentiaire qui sont observés pour faire bouger les choses de l'intérieur en accord avec les autorités locales. Le travail des visiteurs mensuels de PRSF se déroule sur quatre axes principaux. Le volet nourriture et nutrition, dans certains établissements, l'ONG a même pu mettre en place des jardins potagers et maraîchers pour à la fois occuper les détenus et puis aussi améliorer un petit peu leur ordinaire. Il y a aussi la santé et l'hygiène avec des campagnes de nettoyage à l'eau de Javel ou des distributions de savon par exemple. Un autre volet est préparer la réhabilitation des prisonniers à leur sortie par des cours d'alphabétisation ou en leur permettant de suivre des formations professionnelles. Et puis, dernier volet, les visiteurs PRSF doivent connaître un petit peu les procédures des pays d'intervention pour, sans prétendre bien sûr remplacer le conseil juridique d'un avocat professionnel, pour pouvoir quand même renseigner les détenus sur les démarches à suivre. Mais les prisonniers ne sont pas toujours des hommes, pas toujours des hommes adultes. Alors qu'en est-il des femmes et des mineurs en prison ? Michel Benoît.
Heureusement, la proportion de mineurs, d'une part, ou de femmes est relativement réduite. Alors le souci qu'on a, et qui n'est pas évident, c'est d'exiger des autorités à ce qu'il y ait un quartier séparé pour les femmes, à ce qu'il y ait un quartier séparé pour les mineurs. On a dans un pays, avec des financements complémentaires à ceux de PRSF, on a réussi à monter une maison des mamans, c'est-à-dire qu'en détention, il y a des jeunes mères de famille qui sont avec leur bébé. Alors il y avait plusieurs phénomènes. D'abord, le bébé n'était pas compté dans les rations alimentaires de la prison, puisqu'il était, lui, il n'était pas sous mandat. Et le deuxième phénomène, c'était l'emplacement. Et ces petits gamins n'avaient pas l'espace pour faire du quatre pattes, commencer à marcher et autres. Et donc, on a pu contribuer à monter une maison des mamans dans laquelle les mamans peuvent passer leur journée avec leur nourrisson.
Ça, c'était à Baumé, au Bénin, ce qui a même valu une récompense à PRSF. À noter aussi que Prisonniers sans frontières travaille sur certains projets avec des équipes de la GIZ, la coopération allemande. Mais nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler sur cette même antenne.
Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert.
Vous écoutez bien Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Après la prison, la grogne, les appels à manifester se multiplient ces derniers temps dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Souvent, il s'agit, comme au Sénégal ou au Togo ces derniers jours, de partis de l'opposition constituée qui protestent contre le pouvoir en place. Mais parfois, ce sont des personnes issues d'associations de défense des droits de l'homme ou de syndicats qui se font l'écho du ras-le-bol de la population. C'est le cas notamment au Tchad, où une nouvelle plateforme citoyenne, Trop c'est trop, s'est mise en place. Elle entend réclamer davantage d'équité et de liberté au président Idriss Déby Itno, qui est au pouvoir depuis le 2 décembre 1990, donc presque 24 ans. Le porte-parole de Trop c'est trop, Balda Loyamta, m'a accordé un petit peu de son temps la semaine dernière.
Aujourd'hui au Tchad, partout, dans les grandes villes, même dans les petites villes, c'est des manifestations, c'est des revendications à caractère social. La vie devient de plus en plus chère. Nous vivons une pénurie de carburant sans précédent. La crise énergétique, par exemple, dure depuis plus de 20 ans.
Alors même que le Tchad produit du pétrole.
Absolument. Le Tchad produit du pétrole. Malheureusement, avec toute la production que nous avons, aujourd'hui, si vous arrivez à une station carburant, les gens font des queues qui vont quelquefois jusqu'à plus de 200-300 mètres. Et donc, cette situation devient exécrable.
Alors, justement, cette coalition réclame que les dirigeants prennent les décisions qui s'imposent. Quelles sont-elles, ces décisions qui s'imposent, d'après vous ? Vous demandez notamment au ministère du Pétrole et de l'Énergie de prendre ses responsabilités. Ça va jusqu'où ?
Oui, parce que nous avons l'impression que les gens se moquent des Tchadiens et en premier chef le président de la République. Et donc aujourd'hui, c'est le peuple tchadien qui est pénalisé dans un pays où la corruption a complètement gangréné le système, dans un pays où l'impunité est là, dans un pays où chaque fois en véhicule, vous êtes assujetti à des contrôles intempestifs, où on vous extorque de l'argent, vous n'avez pas la liberté d'aller et venir. Donc, tout cela fait que nous sommes dans une situation de ras-le-bol.
Vous ne craignez pas la répression ?
C'est possible la répression. Mais si on craint la répression, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes soumis à vie, à cette situation. Nos enfants vont être soumis à vie dans un système aussi barbare. Et donc, quelque part, il faut bien que des gens soient réprimés. Il faut bien que les gens meurent, s'il le faut, pour pouvoir gagner cette liberté. La liberté, elle nous est très chère et on ne peut pas accepter aujourd'hui, au XXIe siècle, nous soyons baïonnés.
Forcément, on pense aussi au mouvement Yanamar au Sénégal, ça suffit comme ça au Gabon, qui ont eu d'ailleurs des résultats assez différents. Au Sénégal, il y a eu une alternance démocratique, pacifique. Au Gabon, la protestation a été un petit peu étouffée dans l'œuf. Est-ce que ce sont des mouvements dont vous vous êtes inspiré ou avec lesquels vous avez des contacts?
Non, nous n'avons pas de contacts avec ces mouvements. Le Tchad n'a jamais connu l'alternance, le Tchad n'a pas connu de vraie démocratie et donc on ne peut pas comparer le Tchad à ce qui s'est passé au Sénégal dont le cadre est différent. Au Gabon, oui, les gens sont exprimés, mais nous, en ce moment, on n'a pas encore cherché, on n'a pas coalisé avec les partis politiques.
Vous êtes prêt à pousser votre mobilisation jusqu'à quel point?
Ben, jusqu'à ce que les revendications posées sur la table soient réglées. Les Tchadiens n'ont rien à perdre actuellement.
Est-ce que vous ne craignez pas une récupération politique, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire soit qu'un parti d'opposition essaie de vous intégrer, ou alors que les autorités essaient de vous amadouer, par exemple, en vous proposant des postes?
Pour le moment, une alliance avec les partis politiques d'opposition ne sont pas à l'ordre du jour. Proposer des postes, ça fait partie aussi de la stratégie du gouvernement. Mais pour le moment, nous avons mesuré tout cela et on veut rester, nous-mêmes, on veut rester près de nos communautés.
Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de Baldaël Ouyamta Premier ministre dans les prochaines semaines?
Je ne le pense pas et je ne le souhaite pas non plus.
Les flics aux pieds, l'armée aux doigts. Le pape à la haine, les flics aux pieds, l'armée aux doigts.
C'est la fin de ce magazine. Un grand merci à Michel Benoît et Baldaël Ouyamta. Pour réécouter ou télécharger cette émission en vue d'une balado-diffusion, rendez-vous dans la rubrique « Nos podcasts » de notre site internet dw.de/français. Salut et à la semaine prochaine.
Au président, les flics aux pieds, l'armée aux doigts, le pape à la haine, les flics inquiets, l'armée au pas, les armes aux yeux, encore une guerre pour je ne sais quoi.